14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
C'est Brigitte qui a décidé de ce passage à l'acte, c'est personne d'autre. Hein. Qu'est-ce qui a passé à ce moment-là pour dire, voilà, je vais prendre un 357 Magnum et je vais aller dans la cave pour aller me tirer une balle dans la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête.
Bonjour. Que s'est-il passé dans le sous-sol du pavillon Dingwiller en Alsace le 8 novembre 1999 ? Qui a pressé la détente du 357 Magnum ? Le docteur Jean-Louis Muller aurait-il maquillé le meurtre de son épouse Brigitte en suicide ? L'affaire Muller va ainsi longtemps être celle des interrogations et des suppositions, un théâtre d'ombre dans lequel le docteur Jean-Louis Muller va se voir attribuer le rôle principal sous des costumes peu flatteurs, celui d'un menteur, d'un mari jaloux d'un mauvais collègue. Faute de preuves et d'aveux, les experts vont alors entrer en piste. Des spécialistes qui vont occuper presque tout l'espace de l'enquête, leurs conclusions étant suivies à la lettre par l'accusation. Ils vont affirmer que le suicide de la ravissante Brigitte Muller n'en était pas un et que son époux est très probablement un meurtrier. Pendant 14 ans, jusqu'à son acquittement, le docteur Muller va ainsi se retrouver dans la peau d'un personnage machiavélique, un médecin habité par la jalousie et l'exaspération qui serait passée à l'acte. Comment en serait-il arrivé à un tel point de non-retour ? Quelle preuve contre lui ? Question posée aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Jean-Louis Muller, à l'automne 1999, le nom de ce médecin qui exerce dans une paisible commune d'Alsace apparaît à la faveur d'un drame familial, le suicide de son épouse. Le 8 novembre 1999, à 21h24 précise, le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg reçoit un appel d'urgence. « Il y a ma femme qui vient de se suicider », indique l'interlocuteur, un dénommé Jean-Louis Muller, 43 ans, médecin qui habite le village Dingwiller. Les gendarmes sont rapidement sur les lieux, une maison de deux étages, flanquée d'une véranda et qui fait office de cabinet médical. Le corps de Brigitte Muller, 42 ans, gît sur le dos, dans la cave, allongée derrière une table supportant un train électrique. Elle est vêtue d'un gilet de laine bleue, d'un jean et d'une paire de sandalettes. La partie droite de la tête a été arrachée par l'impact. Dans ces constatations, le gendarme Wolfert note la présence au pied de la victime d'une arme, un revolver Ruger de calibre 357 Magnum. Une arme plutôt imposante qui exige une solide prise en main. Le docteur Muller dit être rentré chez lui vers 19h40 après une consultation à l'extérieur. Il a dîné avec son épouse et leur fils Alexandre. Le deuxième fils du couple était alors à la piscine. Le médecin explique avoir discuté avec Brigitte, pas une dispute, mais elle lui a fait part des reproches sur son manque d'intérêt à son égard. Il s'est installé devant la télé. Quelques minutes plus tard, il a entendu une détonation. Il a trouvé Brigitte sur le dos et a compris tout de suite qu'il n'y avait plus rien à faire. Il indique que le revolver lui appartient. Il restait enfermé dans un coffret en plastique sous le lit conjugal. La mort de Brigitte est totalement incompréhensible pour le docteur Muller. Il déclare que son épouse ne semblait pas ce soir-là préoccupée. Elle était même, dit-il, d'humeur joyeuse. Le mari raconte que Brigitte avait eu un très grave accident de cheval l'année précédente. Elle avait longtemps souffert le martyr, mais elle était sur la voie de la guérison. Jean-Louis Muller précise qu'il n'a pas de maîtresse et ne connaît aucun amant à son épouse, une femme qui ne parlait jamais de suicide et n'avait jamais tenté de mettre fin à ses jours. L'autopsie indique que Brigitte Muller avait consommé deux antidépresseurs, mais à très petite dose. L'expert balistique, lui, a du mal à se prononcer. Il conclut que Jean-Louis Muller n'a pas tiré et qu'il n'est pas exclu que son épouse ait tiré. Pas d'empreinte sur l'arme ainsi que sur le coffret qui l'a renfermé. Le 21 février 2000, la procédure est classée sans suite. Il s'agit d'un malheureux suicide. 17 mars 2000, moins d'un mois après ce classement, le parquet ouvre toutefois une information pour recherche des causes de la mort. Les enquêteurs disposent effectivement de toute une série de témoignages qui ont attiré leur attention. Brigitte est décrite comme une tranquille documentaliste, une anti-candidate au suicide. Une psychothérapeute qui la suivait depuis son accident indique que rien chez elle ne laissait présager un tel geste. Sa patiente n'était pas suicidaire. Les parents ne croit pas non plus à ce scénario, même si, contrairement aux apparences, tout n'allait pas pour le mieux dans le couple Muller. 15 jours avant le drame, Brigitte aurait rapporté à sa mère cette menace proférée par son mari. « Si tu fais une connerie, je te descends ». Il est établi que Brigitte avait depuis en moins un nouvel homme dans sa vie, Hans-Peter B. Brigitte lui avait dit que son mari ne supporterait pas qu'elle le quitte. Joël, ami d'enfance de la victime, certifie, elle, qu'elle n'était pas suicidaire, même si elle ne la savait pas très heureuse avec son mari. 2 mois avant la tragédie, Brigitte écrivait à des cousins pour leur dire qu'elle avait retrouvé la santé après son accident. « Je réalise combien on peut apprécier la vie », disait-elle. Le suicide paraît alors exclu. Le 19 octobre 2000, une nouvelle information judiciaire est ouverte, cette fois pour meurtre contre X. Avoir le dernier mot, ça ne fait pas forcément de Jean-Louis Muller un meurtrier, mais un climat de doute où les témoignages se multiplient pour démentir la thèse du suicide d'une femme qui avait goût à la vie. Ce climat s'intensifie, le docteur Muller va ainsi se retrouver exposé à toutes les accusations. Le 8 novembre 2001, 2 ans jour pour jour après la mort de Brigitte Muller, coup de théâtre. Jean-Louis Muller est mis en examen pour meurtre et placé en détention provisoire. À l'appui de nombreux témoignages, le juge Régis Pierre doute de la thèse du suicide. Les parents de Brigitte sont réentendus. Ils indiquent avoir parlé au téléphone avec leur fille pendant 45 minutes, quelques heures seulement avant sa mort. Tout allait bien. Le père affirme qu'elle avait peur de son mari. Véronique, une amie proche, précise que Brigitte voulait divorcer, mais qu'elle ne le pouvait pas car elle se sentait coincée. 3 jours avant le décès, le 5 novembre 1999, Brigitte avait embrassé son amant sur la place Kléber à Strasbourg et était rentrée plus tard que d'habitude à Ingwiller. Son amant l'avait ensuite appelée à la maison. Le mobile qui aurait poussé le docteur Muller à tuer sa femme pourrait donc être le suivant, celui d'un désaveu amoureux. Le médecin dément farouchement. Les deux enfants du couple, également interrogés, ne mettent pas en doute la thèse du suicide. L'aîné, Raphaël, 13 ans au moment des faits, indique que le comportement de sa mère avait changé depuis son accident de cheval, car elle avait beaucoup souffert. Le juge suit la piste de l'homicide mais n'a pas de preuves. La balistique va-t-elle parler ? Un expert qui a examiné le revolver Ruger, retrouvé au pied de la victime, note que le barillet de l'arme était curieusement chargé. Soit, écrit-il, par une personne ignorante en manière d'arme à feu, soit chargé par une personne voulant faire croire que c'était une personne non habituée aux armes qui avait procédé à son chargement. Selon lui, la trajectoire de la balle établie par les médecins légistes ne serait pas conforme avec celle d'un suicide. Un deuxième expert ajoute qu'on ne peut pas conclure à un tir réalisé de la main droite par l'épouse. Un troisième, spécialiste indépendant de l'Office fédéral de la police judiciaire de Wiesbaden, note que dans l'hypothèse d'un suicide, je cite, « on pouvait s'attendre à trouver la main ou les mains intensément recouvertes de particules. Or, il n'en est rien. » Pour la victime retrouvée morte dans la cave de la maison d'Ingwiller. Un médecin légiste de Hambourg, le docteur Christian Schima, va encore plus loin. Selon lui, l'ensemble des lésions pourrait s'expliquer par un deuxième coup de feu. Un premier tiré à une distance quelconque, le deuxième à bout touchant. 5 cartouches étaient dans le barillet, 3 ont été retrouvées percutées. Malgré l'absence d'empreintes digitales de sa femme sur l'arme et les faibles résidus de tir retrouvés sur les mains de son épouse, le docteur Muller est catégorique. Il n'a pas tué Brigitte, il ne cesse de le répéter. Il affirme qu'il n'avait aucune raison de commettre ce crime et il ne savait même pas que son épouse avait un amant. D'après lui, l'état psychologique fragile de la victime suffit à expliquer son geste. Le médecin va même suggérer que sa femme et son nouvel ami avaient peut-être envisagé de le tuer, lui, le mari. Brigitte aurait manipulé sans précaution le revolver et le coup serait parti tout seul. Autant d'explications qui n'arrivent pas à convaincre le juge d'instruction. Jean-Louis Muller est alors renvoyé devant une cour d'assises pour le meurtre de Brigitte. La cour d'assises attend Jean-Louis Muller qui n'a jamais varié dans ses dénégations. Il n'a pas tué Brigitte. Une constance en sa faveur dans un dossier qui ne comporte ni preuves ni témoins. Reste à savoir ce que diront les jurés. Ce 6 octobre 2008, le docteur Muller, costume gris, visage rond, lunettes, apparaît dans le box des accusés de la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg. L'accusé et ses avocats à l'époque Thierry Moser, François Saint-Pierre et Pierre Schulz avait demandé lors de l'instruction une reconstitution du crime. En vain, cette requête, curieusement, n'a jamais été suivie d'effet. Impossible pour les experts d'accéder à la cave de la maison Dinkwiller pour livrer leur rapport. Pas d'aveu, pas d'appreuve. Le légiste et balisticien Christian Schima revient même sur ses conclusions, indiquant qu'il s'est sans doute trompé. La thèse de l'homicide s'en trouve fragilisée, mais les jurés ne semblent retenir que la personnalité dérangeante de l'accusé. Un homme froid, autoritaire et presque cassant. Il est condamné à 20 ans de réclusion. Jean-Louis Muller fait appel. Le 15 juin 2010, le docteur Muller est devant la cour d'assises d'appel du Haut-Rhin à Colmar. Après un 10e refus de reconstitution, les avocats de Muller présentent à la cour un rapport de mise en situation, une espèce de reconstitution effectuée à titre privé. La partie civile était conviée à y assister, tout comme le parquet, mais tout le monde a décliné l'invitation. Cette reconstitution parallèle, sous contrôle d'huissier, est placée sous l'autorité d'un éminent légiste suisse, le professeur Patrice Mange. Jean indique que le tir homicide est difficilement explicable. Présenté par un psychologue comme paranoïaque, querelleur et psychorigide, un homme qui ne supporte pas le hasard et veut tout contrôler, Jean-Louis Muller est à nouveau condamné à 20 ans de prison. Jean-Louis Muller ne veut pas en rester là. Il a saisi la Cour de cassation pour obtenir un nouveau procès. Il va obtenir gain de cause et comparaître une troisième fois aux assises. Le 21 octobre 2013, Jean-Louis Muller comparaît libre devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à Nancy. Le dossier ne comporte toujours pas d'aveu et pas de preuves matérielles. Le nouvel avocat de l'accusé, maître Éric Dupont-Moretti, parle d'une affaire extrêmement difficile. Les experts défilent en esquissant le scénario d'un crime maquillé en suicide par un mari intelligent et qui ne supportait pas que sa femme le quitte. Pourquoi le 357 Magnum ensanglanté ne portait-il aucune empreinte? Pourquoi a-t-on retrouvé davantage de résidus de poudre sur les mains du mari que sur celles de son épouse? Des impressions, mais pas de cohérence, davantage de questions que de réponses. Maître Dupont-Moretti sait que le doute profite parfois à l'accusé. N'ayant pas obtenu de reconstitution, il a fait venir dans la salle d'assises la fameuse table en L qui supportait le train électrique, celle devant laquelle Brigitte a trouvé la mort. L'avocat démontre que Muller n'a pas pu tirer. En se collant derrière son épouse, il aurait fait écran aux projections de sang qui maculent les murs. Il n'a pas pu tirer à distance non plus vu la configuration des lieux. Une démonstration qui hérite l'avocat général qui martèle. Il a tué la mère, Muller a tué la femme, ça mérite 20 ans de prison. Mais démonstration qui fait son effet sur les 9 jurés. Le 31 octobre, le médecin est acquitté. Il ôte ses lunettes et fond en larmes, soutenu par son avocat et son plus jeune fils accouru dans le box.
C'est véritablement une victoire de la justice. J'affirme que Jean-Louis Muller est totalement innocent. Il a perdu sa réputation, sa maison, son travail, sa liberté et justice lui a été rendue.
Cette fois, le docteur Muller est définitivement mis hors de cause par la justice, acquitté, même s'il n'en a pas totalement fini avec les procédures, souhaitant que son image soit totalement réhabilitée. 2 ans après son acquittement, le 20 février 2015, Jean-Louis Muller, 59 ans, se voit octroyer par la cour d'appel de Nancy 367 551 euros d'indemnisation pour les 600 jours qu'il a passés derrière les barreaux avant que la justice ne le déclare non coupable. Il réclamait plus de 2 millions d'euros. À la sortie de l'audience, il se déclare déçu par ce montant. « J'ai subi 4 incarcérations, ça fait 600 jours de prison et presque 5000 jours de procédure. J'ai perdu ma clientèle, j'ai perdu ma maison, mon travail. Je me retrouve à 60 ans avec plus de chômage, plus rien du tout », témoigne-t-il alors sur RTL. Jean-Louis Muller, aujourd'hui âgé de 66 ans, n'exerce plus la profession de médecin. Il a refait sa vie et a ouvert des chambres d'hôtes dans sa région natale, l'Alsace. Il ne souhaite plus s'exprimer sur l'affaire tant que toutes les procédures ne sont pas éteintes. L'ex-docteur a en effet décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français pour procédure abusive.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.